chanteront le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant.
Bonsoir. L'émission que vous allez entendre a été enregistrée le samedi 5 avril, donc quelques jours avant sa diffusion. Et je le précise parce que l'histoire avance tellement vite avec les secousses imprimées par l'agitation extrême de la présidence des États-Unis que d'un jour à l'autre, on peut manquer un événement important dans une situation extrêmement volatile et très évolutive. Mais ça justifie en fait beaucoup plus que je ne le dis mon intervention de ce soir, puisque en fait, dans des moments pareils, qui sont des moments de grande transformation dont on ne connaît pas encore définitivement les formes, il s'en faut encore de quelques semaines, voire de quelques années, il est important de se réenraciner dans l'histoire, c'est-à-dire de voir pourquoi ce qui se produit avec cette intensité dans la période que nous traversons a des racines, des sources dans des événements précédents. Et c'est en reconstituant ces événements précédents pour vous, comme je l'ai fait moi-même en préparant cette émission, que j'essaye de retrouver les bases d'un raisonnement le plus serein possible et le plus rationnel possible et le plus documenté possible. Mais voilà, donc au pied de cette tâche-là, que j'ai intitulée, puisqu'on est tout à fait dans le cadre de la réflexion sur ce qui nous arrive, la décolonisation de la France, ou décoloniser la France. Ce qui veut dire que décoloniser, ça veut dire qu'elle a été colonisée, encore faut-il expliquer depuis quand, pourquoi et comment. Ce à quoi je vais m'employer autant que possible. Et donc j'aurais pu commencer effectivement tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, au moment où les grands rapports de force, les grandes institutions qui sont encore à la tête de ce monde, je veux penser à l'ONU, à l'organisation, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et à tout ce qui allait avec. Et puis en fait, il m'est apparu qu'il fallait remonter un petit peu plus loin. Car ce qui s'est produit, donc ce qui s'est concrétisé à cette période-là, donc l'immédiate après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, avait ses racines un peu avant. Et un peu avant, ça veut dire en fait après la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est par là que je vais commencer. La fin de la Première Guerre mondiale, alors on en connaît les tenants et les aboutissants, et puis ce qui marque la fin de la Première Guerre mondiale, c'est effectivement les traités de paix qui sont signés à Versailles, mais pas tout de suite, puisque ça se passe en 1919, et qui sont signés. Et c'est déjà la simplicité et dans la douceur, c'est-à-dire que jusqu'en 1922, en gros, les puissances étrangères, dont les États-Unis, dont la France, dont la Grande-Bretagne, dont le Japon, dont la République tchèque et un certain nombre d'autres, vont empêcher par les armes, c'est-à-dire en envoyant des troupes sur le sol de ce qui sera l'Union soviétique, des troupes pour tuer, arrêter la prise de pouvoir par les bolcheviks. On sait qu'il y aura des soldats français qui iront encore se battre quelque part sur la mer Noire, vers Odessa et tout, dans ces années-là. Et donc, ce qui est à l'ordre du jour, c'est bien pour les États-Unis, c'est essayer d'éviter l'installation du régime bolchevique, et puis une fois qu'il est installé, faire comme si il n'allait pas durer, c'est-à-dire il n'allait pas durer en tant qu'adversaire politique, quoique affaibli par la guerre civile, adversaire économique vu la taille et les capacités de ce territoire, et adversaire idéologique, ça c'est la nouveauté, c'est-à-dire proposant un régime socialiste qui n'est pas à l'ordre du jour, évidemment, du côté des États-Unis et des puissances de l'Europe occidentale. Voilà le contexte, et voilà ce qui motive bien la position de Wilson et des États-Unis, c'est-à-dire ne pas oublier, en réglant calmement la question des conflits entre Européens, que l'adversaire historique, qui n'est ni l'Allemagne ni la France, que l'adversaire historique qui est la future Union soviétique est la Russie, avec son immense territoire, deux fois la taille du territoire des États-Unis, d'immenses ressources naturelles en voie à exploiter, mais qui vont s'avérer être d'une grande, grande taille, d'une grande quantité, d'une grande qualité, de l'eau, des terres à blé extraordinaires, tout ça suscite des convoitises, et puis même, j'allais dire, une certaine jalousie de la part de la puissance montante émergente de ce grand pays qui est en train de dominer le monde, de commencer à dominer le monde, une espèce de jalousie par rapport à cet autre pays qui pourrait en fait lui faire de l'ombre, vu les capacités qu'il a, et en plus en proposant un autre régime social à l'ensemble de l'humanité. Donc l'adversaire, il est bien là. Et c'est pour ça que les petites chicayas entre voisins européens n'intéressent pas spécialement Wilson. Et Wilson va dire, non, ne vous fâchez pas, il n'y a pas de règlement de compte, les réparations, il n'y a pas de réparations et tout. Il faut que l'Allemagne, qui a souffert aussi de cette guerre, bien qu'elle n'ait pas eu lieu sur son territoire, mais qui a souffert économiquement, qui a perdu aussi des hommes, que l'Allemagne se reconstitue et soit là, dans mon camp, qu'elle fasse partie de mes amis, parce que l'adversaire, il est là-bas, à l'est. Et c'est effectivement ce qui va se passer, c'est-à-dire que le grand capital des États-Unis, les grandes entreprises, vont s'installer en Allemagne, d'abord sous l'Allemagne de Weimar, ensuite, au moment du Reich, c'est-à-dire ça ne les gênera pas du tout l'arrivée des Hitlériens au pouvoir à partir de 1933, les grandes entreprises des États-Unis sont là, sur le territoire allemand. Alors, citons des noms qui existent encore, hein, IBM, Ford, General Motors, Coca-Cola, j'en passe et quelques autres, sont Exxon de l'époque, sont installés sur le territoire de l'Allemagne, et donc à l'intérieur de l'Allemagne nazie, où ils vont continuer leur activité sans être pas du tout gênés par le régime nazi. Et donc clairement, l'objectif reste le même, il s'agit de préparer cette Allemagne à un assaut contre le concurrent soviétique, et à le préparer d'autant plus activement que ce concurrent soviétique, après la période de mise en place de l'Union soviétique, est en train, à marche forcée à travers les plans quinquennaux, de devenir très très vite la deuxième puissance industrielle mondiale. Donc la concurrence prend corps, elle se concrétise comme jamais. Voilà ce qu'il faut rappeler quand on voit pourquoi les États-Unis se sont intéressés à l'Europe et ont mis le nez dans ses affaires. Et donc ils le font du point de vue économique, je l'explique, et puis ils le font aussi du point de vue diplomatique, puisque c'était encore une invention de Wilson. Il fait créer la Société des Nations, donc une sorte d'ONU avant la lettre, dont il n'est pas membre, c'est-à-dire la Société des Nations, c'est un peu une espèce de tribunal de police pour les Européens, pour éviter qu'ils continuent à se faire la guerre, parce qu'il y a plus sérieux de l'autre côté, côté soviétique. C'est ça la Société des Nations, qui va d'ailleurs utiliser les États-Unis vont utiliser ses amis britanniques et français pour prendre parti dans un certain nombre d'affaires. Et je rappelle que ce qui a été le mandat de la France sur la Syrie et le mandat de l'Angleterre sur la Palestine, c'est une volonté clairement de Wilson et des États-Unis, volonté qui, du côté de la Palestine, s'est transformée en faisant de la déclaration Balfour un texte fondamental de la Société des Nations. C'est-à-dire que la colonisation de la Palestine par les sionistes est une décision de Wilson imposée au droit international à travers la Société des Nations. Ce n'est pas inutile de s'en souvenir aujourd'hui où nous parlons. Et nous voilà rendus à cette Deuxième Guerre mondiale. Et là, comme pour la première, effectivement, les États-Unis laissent la bataille commencer, la guerre commence, donc en septembre 1939. Elle n'est pas très très active dans les premiers jours, puisqu'en fait, on l'appelle la drôle de guerre, et ça ne deviendra effectif qu'au printemps 1940. Et là, très très rapidement, l'Allemagne du nazi va emporter la victoire, occuper les Pays-Bas, la Belgique, la France, etc. Une victoire éclair qui va amener à la capitulation française en juin 1940. Bon. Et là, les États-Unis laissent faire. Ils savent, ils observent, mais ils laissent faire, ils n'interviennent pas. Et ils vont mettre longtemps à intervenir, c'est-à-dire que pendant tout le début de cette guerre, après donc la capitulation française, l'Allemagne n'a comme adversaire militaire sur le continent européen que la Grande-Bretagne. C'est tout, elle n'a plus aucun autre adversaire. Et il faut attendre beaucoup plus tard pour que les États-Unis se mettent de la partie, si j'ose dire, comme ils l'ont fait d'ailleurs pendant la Première Guerre mondiale. Beaucoup plus tard, ça veut dire quand? Ça veut dire très précisément après que le Japon ait bombardé la base de Pearl Harbor à Hawaï, et donc ait détruit une bonne partie de la flotte des États-Unis. Et à ce moment-là, effectivement, les États-Unis se disent « là, ça devient grave, il faut que j'intervienne dans la guerre du Pacifique ». Et puis secondairement, puisque là, il y a quand même les Britanniques qui sont là au travail depuis le début 1940, il faut que j'intervienne là aussi. Alors ils vont intervenir, mais progressivement, et ils vont consacrer quand même, il faut le dire, parce qu'ils vont consacrer l'essentiel de l'effort militaire à la guerre dite du Pacifique. Car le Japon est un adversaire coriace, qui s'est bien préparé, qui est bien équipé militairement, et donc la tâche ne sera pas si simple. Et voilà donc les États-Unis qui décident de rentrer en guerre, alors d'abord contre le Japon bien sûr, et puis ils prennent parti à la guerre côté européen. Donc là, la guerre mondiale prend sa vraie forme, sa vraie dimension. Elle devient mondiale, elle touche tout le monde. Une fois ceci rappelé, il faut savoir qu'est-ce qui va se passer donc, une fois que la guerre vient à sa fin. Alors la guerre vient à sa fin par étapes progressives, et du côté donc de notre continent européen, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis se lancent timidement dans les opérations militaires en prenant pied en Algérie. Pourquoi en Algérie? Parce qu'il s'agit en fait de prendre pied dans ce qui est encore la République française pétiniste, collaborationniste, mais d'être à pied d'œuvre pour faire plus, pour aller chasser les envahisseurs nazis du territoire, du reste du territoire hexagonal, on dirait aujourd'hui. Et là, en fait, les États-Unis se trouvent face à un obstacle politique qui est nouveau, puisque en fait, alors qu'ils vont tenter de s'appuyer sur des éléments pétinistes, collaborationnistes qui sont en poste à Alger, je pense au général Giraud, je pense à Darlan, il y a un trouble fait du point de vue des États-Unis, qui s'appelle le général de Gaulle. Ce général de Gaulle a bien compris que les États-Unis voulaient assujettir la France, d'où mon terme de coloniser la France, parce que je pense qu'il prend sa racine là, c'est-à-dire que la réaction gaulliste, l'opposition gaulliste à la tutelle des États-Unis sur le pays, elle prend la forme d'un refus d'être colonisé, d'être dominé et de devoir prendre ses ordres à l'extérieur. Donc ça, c'est tout à fait clair et ça va leur rester vrai pendant toute la carrière du général de Gaulle. Et donc le général de Gaulle arrive avec d'énormes difficultés à s'imposer comme le leader de ce qu'on appelle encore la France libre, avec un gouvernement provisoire, et à être à la tête des armées françaises qui vont libérer le territoire pour arriver à la victoire de 1945. Alors cette France libre, elle a deux morceaux. Elle a un morceau intérieur, une résistance qui a commencé modestement après le 18 juin 40 et qui s'est amplifiée au fil des temps. Cette résistance qui repose très largement sur la capacité du Parti communiste et de ses militants de tenir le maquis et de résister à l'intérieur, et puis sur l'apport des troupes de la France libre qui, dès le début, se sont ralliées à la France libre et donc qui ont aidé à la libération du territoire, d'abord en arrivant à l'Algérie, etc. Donc le territoire est libéré par ces deux forces, la force intérieure de la résistance, la force de la France libre, les troupes coloniales. Donc la France se retrouve libérée, et par cette espèce de miracle politique qu'on doit à De Gaulle et à sa vision des affaires, la France se retrouve dans le camp des vainqueurs, alors qu'elle n'a pas porté tout l'effort de guerre, elle l'a porté en partie, mais c'était pas acquis, écrit dès le départ, et puis il y avait en France des gens qui étaient tout à fait prêts à se soumettre, ils l'ont prouvé à Vichy abondamment, à se soumettre à l'occupation allemande, et puis même après, à accepter que les Allemands soient remplacés par les Américains, qui étaient décidément très très forts, très très puissants, etc., et ont passé d'une suggestion à une autre, d'où mon terme, que je trouve qui est fort, mais que je maintiens, de colonisation de la France. Il faut savoir que l'occupant, le combattant américain, le gouvernement des États-Unis, donc, avait prévu de fabriquer une monnaie pour la France soi-disant libérée, avait prévu d'organiser le territoire et avait prévu que ce ne soit pas De Gaulle qui soit au pouvoir, mais quelqu'un qu'ils auraient eu entre leurs mains. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais il faut bien voir que la colonisation a pris ses racines à ce moment-là très précisément. Et elle a pris ses racines parce que, à part quelques mois et disons jusqu'au départ des ministres communistes au printemps 1947 du gouvernement de la République, les choses ne sont encore pas gagnées, c'est-à-dire que les États-Unis essayent d'avancer pour montrer qu'ils sont les maîtres du jeu. Ils avancent bien d'ailleurs avec la complicité des gouvernements provisoires, en particulier celui mené par Léon Blum. Et donc il y a ce qu'on appelle l'épisode du plan Marshall qui ne se réduit pas à d'abord à cette imagerie d'Épinal en disant « les États-Unis nous ont sauvés, ils nous ont couverts d'argent, ils nous ont aidés dans notre redressement ». Non, les États-Unis se sont imposés, ont acheté la République française et ont imposé leurs produits et ont imposé leur cinéma, ont imposé tout ce qu'il fallait manger américain, consommer du blé américain, acheter des tracteurs américains, acheter des bulldozers américains, acheter tout ce que l'industrie américaine fournissait en grande quantité. C'est ça, et c'est très très bien décrit, ce que je vous décris là, très très succinctement, et très très bien décrit dans le dernier livre d'Anil Akhwari sur les préalables au plan Marshall. Le plan Marshall, c'est d'abord une soumission de la République française à la domination américaine des États-Unis, domination américaine qui est complétée par la domination institutionnelle, c'est-à-dire que les institutions mises en place après la Deuxième Guerre mondiale, donc Fonds monétaire international, Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qu'on appelle maintenant Banque mondiale, sont là pour montrer que c'est les États-Unis qui mènent le jeu, et puis l'ONU est là, et l'ONU dans lequel il y a un Conseil de sécurité qui est chargé de faire respecter la discipline sur la planète, et où il y a dès le début 5 membres, je m'arrête là-dessus, mais c'est très très important, il y a au début donc le premier Conseil de sécurité avec ses 5 membres permanents, qui sont les membres qui ont le droit de veto, donc les plus importants, les 5 grands, on pourrait dire simplement, sont en 45, l'URSS, bien entendu, les États-Unis, bien entendu, la Grande-Bretagne, parce qu'elle fait partie du jeu et que les États-Unis l'ont emmenée dans leur fourgon, la Chine de Chiang Kai-shek, le Chiang Kai-shek, c'est-à-dire pas la Chine des maoïstes, pas la Chine des communistes, et la République française. La République française, dont la présence au Conseil de sécurité comme membre permanent a été imposée par Staline, qui s'est rendu compte et qui n'a pas oublié que dans les derniers mois de la guerre, De Gaulle était venu en URSS pour reconnaître le rôle éminent que l'URSS avait pris dans la victoire sur le nazisme dans la Deuxième Guerre mondiale. Rôle qu'on a voulu minimiser et qu'on continue à minimiser en permanence, mais qui est réel et qui correspond à la réalité historique. Voilà la donnée en ce début dans les années 45-50. Et puis, les États-Unis, donc, qui ont réussi quand même à mettre la main Alors à travers les accords avec Blum, à travers les accords qu'ils ont imposés en Italie, puisqu'ils ont chassé aussi d'Italie les ministres communistes du gouvernement, comme ils ont fait en France, qui ont installé donc aux Pays-Bas, en Belgique, des régimes amis, qui ont l'Angleterre qui est proche historiquement, et donc les États-Unis ont entrepris de mettre la main sur ce morceau-là de l'Europe, sachant que l'armée rouge, dans son mouvement pour libérer l'Europe et le monde du nazisme, est arrivé jusqu'à Berlin. J'insiste bien, c'est l'armée rouge qui est arrivée jusqu'à Berlin, c'est pas l'armée américaine. L'armée américaine est restée sur l'Elbe, l'arme au pied, en attendant que ça se termine, et c'est-à-dire que c'est à l'armée rouge qu'on doit la chute et la capitulation du Reich, qu'on doit le suicide de Hitler, qu'on doit la prise des principaux généraux allemands du Reich, nazis, dans le Reichstag. C'est à personne d'autre. Un prix extrêmement lourd, par ailleurs, pour l'armée rouge. Bon. C'est ça qui s'est passé, il ne faut pas l'oublier. Bon. Donc, les États-Unis voient bien qu'ils n'ont pas tout fait, ils le savent, mais ils se disent maintenant que l'armée rouge est là, donc cet univers soviétique qui nous inquiète tant à tout point de vue, donc idéologique, économique et tout, malgré les énormes souffrances de la guerre, donc les 27 millions de morts de la guerre du côté de l'Union soviétique, ça reste un adversaire stratégique historique de longue portée, qu'il ne faut jamais oublier. Et donc il faut qu'on organise un camp contre eux, qu'on organise une espèce de zone de protection pour qu'ils n'avancent pas plus à l'ouest, ce qui n'a jamais été dans leurs intentions, mais on fait comme si, et on dit, oulala, ils nous veulent du mal, ils veulent nous envahir. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais on est exactement dans une situation comme celle qu'on vit aujourd'hui par rapport à l'Ukraine. Non, ah, l'URSS, la Russie va nous envahir. Bon, ça n'a pas du tout été le cas. D'abord, ils avaient énormément souffert, ils n'en avaient ni les moyens, ni l'ambition. Quand on est le premier pays du monde en surface, riche, qu'on est à l'époque encore la deuxième puissance industrielle mondiale, on n'a pas le goût bizarre d'aller venir prendre des petits pays pour compléter sa colonisation. La Russie soviétique n'est pas une société coloniale, point. Bon. Les États-Unis le sont, ils l'ont démontré par ailleurs, d'abord sur leur territoire et partout ailleurs pendant des décennies et pendant plus que ça. Bon. Et nous voilà face à cette situation. Que font les États-Unis ? Eh bien, ils disent qu'il faut qu'on organise une structure militaire qui contrôle cette Europe de l'Ouest, ce petit pied-à-terre, ce bout d'Europe qu'on a colonisé de fait. Il faut qu'on l'organise dans notre système de défense, c'est-à-dire qu'on ait sur place des gens qui sont avec notre armée dans un système de commandement intégré et qui vont participer à la résistance contre une éventuelle, je mets toujours les guillemets, intervention soviétique chez eux. Et c'est ce qui se passe, ça s'appelle le traité de l'Atlantique Nord, ça dit bien son nom, hein. Il s'agit de réunir donc États-Unis plus Canada d'ailleurs dans l'opération, et puis les quelques puissances qui vont constituer l'ossature de cette Europe en construction. Alors l'ossature, au début ça va s'appeler l'Union de l'Europe occidentale, puis le marché commun, etc. Je vous passe tous les détails, ça c'est une histoire qu'on raconte beaucoup dans les écoles et dans les universités, sur laquelle je n'ai pas beaucoup à développer. Bon. Toujours est-il que avec ce bouclier militaire, qui est un bouclier américain, où l'armée américaine écrase toutes les autres avec sa capacité considérable, ses moyens énormes, etc., et sa richesse, ce bouclier est accompagné d'une espèce de zone économique où on travaille avec les États-Unis, où on achète états-uniens, ce que je disais tout à l'heure pour le plan Marshall continue, on achète le matériel aux États-Unis, les armées qui se reconstruisent achètent des avions américains, achètent des tanks américains. C'est un peu moins vrai pour la France, je ne rentre pas dans ce détail-là, mais c'est un peu moins vrai. Mais par ailleurs, les États-Unis sont chez eux, vendent tout ce qu'ils veulent à ce petit morceau d'Europe qui est devenu leur colonie. Clairement. Et ça se fait, bien sûr, il y a un habillage démocratique, on se réunit, on fait des congrès, on signe des traités, mais là, la réalité, là, on a la première puissance économique mondiale, qui sont les États-Unis au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, de très très loin, on considère que c'est entre 45 et 50% du PIB mondial qui sont entre les mains du gouvernement de Washington, et donc ils profitent d'une situation, surtout par rapport à des pays qui ont vécu la guerre, qui ont beaucoup souffert, et qui ne sont pas en capacité de résister économiquement à cette invasion-là, fut-elle pacifique. Voilà cette donnée qu'il importe d'avoir en tête. Ce qu'il faut voir, c'est que dans cette période-là, une fois que De Gaulle est parti, il part très vite parce qu'il voit bien que ça va mal tourner, c'est-à-dire que tous les anciens collabos, pétinistes, etc., vont revenir discrètement dans les couloirs et sous les ordres de la République, qu'il va se trouver confronté à des citoyens français qui ont été formés aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui viennent pour défendre les intérêts des États-Unis sur le sol européen et français en particulier. Je pense à un certain Jean Monnet, je pense aussi à Pinet qui n'a pas été formé aux États-Unis mais qui est dans ce cercle-là, donc des pro-américains patentés. De Gaulle a très très bien vu ça et il s'en va parce que il n'aime pas ce genre de politique, il était plus à l'aise dans l'aventure militaire et dans la stratégie internationale qu'il n'est à l'aise là. Et donc la France se retrouve sous tutelle des États-Unis à travers à la fois donc un système militaire, l'OTAN, et puis un système qui se met en place, un système qui est le système européen. Ce qu'il faut voir, et ce sur quoi je tiens à insister, c'est que ce système européen, qui va passer par toute une série d'étapes, qui est assez connue, mais sur laquelle je vais un peu m'arrêter, ce système européen est un système où, sans arrêt, les États-Unis sont là, disent ce qui leur va, disent ce qui leur va pas, et de toute façon c'est un système où leurs intérêts sont toujours défendus, et c'est toujours un système où il s'agit surtout de ne pas trop travailler avec la puissance ennemie, avec le bloc de l'Est, puisqu'on est la guerre froide est lancée, on a un adversaire qui n'a pas envie du tout de se battre, mais on a désigné un adversaire, et donc tout doit s'organiser autour de la lutte contre cet adversaire. Donc anticommunisme, campagne de toutes sortes, etc. Voilà en gros où on en est à cette période charnière, donc 1945-1950, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la prise en main militaire, puisqu'en fait l'OTAN est une alliance militaire où les décisions se prennent à l'unanimité, c'est-à-dire qu'aucune décision n'est possible contre l'avis des États-Unis. Et en pratique, c'est exactement l'inverse. L'effet de domination est tel que si les États-Unis décident de quelque chose, les autres, plus ou moins, vont suivre. Bon, obligés ou pas, même avec des moyens beaucoup, beaucoup plus petits, tout le monde, l'Alliance, l'OTAN, va faire ce que les États-Unis ont décidé de faire. Et puis, il y a la tutelle économique à travers cette Europe en construction qui est, de toute façon, proche des États-Unis et qui, de toute façon, met en avant des systèmes économiques qui sont très largement inspirés du système états-unien avec son mode de fonctionnement, et puis qui est très ouverte aux investissements américains dans l'industrie, dans tout ce qu'on peut imaginer. Donc les États-Unis reproduisent sur le reste de l'Europe ce qu'ils ont fait pendant l'entre-deux-guerres en Allemagne, c'est-à-dire que leurs entreprises sont chez elles, sont dans l'Europe, petite Europe qui se constitue au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Nous voilà, le cadre est placé. Et alors, ce qui va se passer, c'est que cette Europe sous tutelle militaire des États-Unis, donc avec cet accord de l'OTAN et ce carcan de l'OTAN, d'une certaine façon, va grossir au fur et à mesure que le bloc d'en face, qui s'est organisé comme il a pu, mais qui n'était pas très très convaincu, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est que face à l'OTAN et puis face au début de l'Europe, le marché commun, la CECA, l'Euratom et tout, le camp soviétique, donc qui va jusqu'en Allemagne de l'Est, jusqu'à Berlin à l'époque, s'organise, mais il ne met pas d'énormes moyens, c'est-à-dire il crée d'un côté le Comecon, une espèce de marché commun de l'Europe de l'Est, et puis de l'autre côté le pacte de Varsovie, une espèce d'alliance militaire qui pense va permettre d'éviter que l'Europe de l'Ouest, américaine, colonisée, j'emploie toujours ce terme, progresse et vienne un peu chasser sur les terres. Bon, c'est ça le climat général de la guerre froide, on le connaît. Et nous voilà arrivés donc dans ces années 1950, et donc l'Europe va croître petit à petit par bons successifs, mais les bons successifs sont très intéressants à suivre parce que ça va se faire tout doucement, on va prendre un peu qui veut venir, on va s'agrandir progressivement, et en fait la vraie basculement, le vrai changement de dimension vient d'une façon un peu inopinée quand l'URSS s'effondre. Alors elle s'effondre, alors le débat, enfin je ne rentre pas dans le débat dans cette émission, l'URSS s'effondre, Elle a décidé d'arrêter, de se dissoudre. La décision est prise d'une façon quand même assez curieuse que je tiens quand même à rappeler, c'est-à-dire que dans les derniers mois de 1991, il y a un référendum organisé dans toutes les républiques soviétiques, de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et ce référendum donne une très très grande majorité, alors ça va de 75% à 95%, pour le maintien du régime soviétique. Ça, on a tendance à l'oublier, mais c'est ce que pensait la population. Quoi qu'on puisse en penser, nous, c'est ce qu'ils pensaient. En fait, il se trouve que l'Union soviétique est dissoute parce qu'il y a trois personnages qui, clandestinement, on peut le dire, dans une forêt où ils se sont cachés, décident de dissoudre l'URSS. Ces trois personnages, je les cite, sont trois présidents. Il y a le président Eltsine pour la Russie, le président Kravchuk pour l'Ukraine et le président du Biélorusse pour l'époque, qui n'est pas le président actuel. Et ils décident que c'est fini. C'est-à-dire qu'on a une espèce de viol des populations pour que l'Union soviétique n'existe plus et qu'il ne reste plus qu'une fédération de Russie d'un côté et deux autres pays, donc l'Ukraine et puis la Biélorussie, qui prennent leur essor indépendamment. Bon. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, voyant cette espèce d'embellie dans les ambitions impériales, c'est-à-dire que à ce moment-là, au moment où cette explosion, cet éclatement de l'URSS a lieu, les États-Unis voient arriver un moment béni, c'est-à-dire le moment où l'adversaire affaibli politiquement, pas cohérent et n'ayant pas le soutien, parce que les trois qui prennent ne sont pas soutenus par la population, qui voulait le contraire. Donc ils voient bien qu'il y a un moment de faiblesse, et donc ils vont en profiter, et ça va se traduire très très vite par une modification de la structure européenne qui va prendre la forme du traité de Maastricht. Alors je m'arrête, qu'est-ce que c'est que le traité de Maastricht ? C'est un traité qui met les bases du nouveau système de gouvernement des colonies de l'Europe de l'Ouest par les États-Unis, et qui introduit en particulier, j'insiste là-dessus, parce qu'on parle déjà, on est en 91, on parle déjà de monnaie commune, de texte commun, de politique commune sur ce sujet. Ce qu'on ne dit pas assez, mais qui est un des trois piliers du traité de Maastricht et qui restera un des trois piliers de toutes les évolutions statutaires de l'Union européenne ou de l'Europe, c'est la politique extérieure et de sécurité, la politique étrangère et de sécurité commune. Ça s'appelle PES, c'est politique étrangère et de sécurité commune. Ça veut dire que dès le référendum de Maastricht, il est entendu que les États qui sont membres de la structure européenne n'ont pas une politique étrangère qui leur est propre. L'Union européenne a une politique étrangère qui lui est propre. Et cette union se range dans le cadre de l'OTAN, c'est-à-dire dans le cadre de l'alliance militaire avec les États-Unis. Ça a été très très clairement acté par un texte que je vous lis, qui a été rédigé au sommet de Rome, un sommet donc de l'Union européenne de l'époque, en novembre 1991, et qui dit la chose suivante. « Le développement d'une identité de sécurité et du rôle de l'Europe en matière de défense, reflété dans la consolidation du pilier européen au sein de l'Alliance, renforcera l'intégrité et l'efficacité de cette dernière. » L'accroissement du rôle et des responsabilités des membres européens constitue un fondement important de la rénovation de l'Alliance. Ces deux processus positifs se renforcent mutuellement. Nous entendons parallèlement à l'émergence et au développement d'une identité européenne de sécurité et du rôle de l'Europe en matière de défense, consolider le lien transatlantique fondamental dont l'Alliance est le garant et maintenir pleinement l'unité stratégique et l'indivisibilité de la sécurité de tous les alliés. On ne peut pas être plus clair, c'est-à-dire que nous sommes ensemble parce qu'on a un adversaire commun et c'est ça qui nous rassemble. Alors après, l'Union européenne, enfin l'Europe va grossir, on passera du traité de Maastricht en 92, au traité d'Amsterdam en 97, du traité de Nice en 2001, du traité, pour finir, au traité de Lisbonne en 2007. Bon, et retenons simplement que ce traité de Maastricht, donc, qui ouvre cette porte en disant l'Europe elle existe, mais l'Europe elle existe en tant que vassal, c'est le moins qu'on puisse dire, moi je vais plus loin, en tant que colonie des États-Unis, l'Europe existe, mais elle va le rester, et traité après traité, ça va se confirmer. Alors comment ça se passe Maastricht ? Je m'arrête quand même sur ce traité-là et sur la façon dont il est voté. Ce qui se passe, c'est que la population française n'est pas trop convaincue, et il y a même une opposition parlementaire assez forte, organisée par les gaullistes. Alors De Gaulle est parti, mais les gaullistes sont encore là. Ils sont assez nombreux au Parlement, à l'Assemblée nationale. Ils sont suffisamment nombreux pour avoir, par exemple, en 1954, torpillé un projet de communauté européenne de défense qui consistait à obliger l'armée française, alors en 1954, obliger l'armée française à s'embrasser sur la bouche avec l'armée allemande. 9 ans après la guerre et l'occupation, c'est quand même pas très facile, mais c'est ce que voulaient les Alliés, parce qu'ils voulaient que dans leur camp, il n'y ait pas de fâcherie, fût-ce entre d'anciens belligérants. Ils voulaient que chacun soit à sa place et que ce soit eux qui gouvernent. Bon, donc Maastricht, c'est pas très très bien vu, et on a pu penser, et, y compris jusqu'au président de la République dont je vais parler, que le référendum donnerait un refus, c'est-à-dire que la population française, appelée à voter, suivant les discours faits au Parlement, en particulier par Philippe Séguin, dont il faut saluer la mémoire parce qu'il a bien expliqué quel était le problème, donc ce référendum devait donner non, d'après les sondages. Et en fait, il est sauvé in extremis par un Mitterrand très fatigué, puisqu'il est déjà très malade et qui mourra de sa maladie dans les mois suivants. Un Mitterrand qui, par une intervention télévisée assez remarquable, j'allais dire, va pousser les citoyens français à voter pour Maastricht, donc va pousser dans le sens « nous restons les amis des Américains et c'est avec eux que nous devons travailler », etc. Et le référendum passe avec 51% des voix. C'est très très serré, et probablement sans l'intervention de Mitterrand, c'est le non qu'il aurait emporté. Et donc ce chemin donc, de la vassalisation et de la colonisation va continuer au fil des temps, et on retrouvera, alors on va retrouver, puisqu'il faut le dire aussi, on va retrouver la même situation de référendum en 2005, quand on est face à un nouveau traité, le traité de Nice en particulier, qui prévoit d'aller au-delà de la politique étrangère et de sécurité commune. Ça s'appelle, à partir du traité de Nice, le programme de sécurité collective et de défense. Alors on est plus, encore plus lié à une alliance, enfin on devient un seul pays, c'est un peu l'idée d'une fédération qui n'en est pas vraiment une, mais enfin la sécurité c'est l'affaire de tous, et on est embarqué sur le même bateau, on est dans le même camp et on a les mêmes adversaires. Car la fédération de Russie en 2001 n'est pas en très très bonne santé, mais elle est toujours là et elle va petit à petit se relever d'une crise dramatique où elle a perdu beaucoup beaucoup de ses moyens. Et de ses capacités de défense. Et nous voilà donc face à un nouveau référendum pour faire passer cette politique de sécurité collective et de défense qui s'appelle le référendum de 2005, dont vous avez peut-être le souvenir. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à dire, effectivement, nous sommes prêts, nous, citoyens français, à abandonner la souveraineté de la République française pour être dans cette alliance dont les fils sont tirés et dont les intérêts sont principalement les intérêts des États-Unis, pour nous opposer, alors en plus en 2005, la crainte de l'Union soviétique et plutôt de la Fédération de Russie n'est pas très très prégnante, parce qu'elle est encore en assez mauvaise santé, elle se remet de ses plaies, mais elle n'est pas encore très 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 forte. Bon, toujours est-il que ce référendum a lieu, et il se passe ce qui ne s'était pas passé donc pour le traité de Maastricht en 1992, c'est que là, la France vote non. Alors, scandale, elle n'est pas le seul pays, les Pays-Bas font la même chose, et donc on a deux pays qui ont voté non, et donc ça veut dire que l'édifice construit de longue date de la colonisation de l'Europe par les États-Unis est en train de chanceler. Alors, c'est très très grave. Mais que va-t-il se passer dans cette circonstance particulière ? Oh ben on le sait très très bien. Eh ben, les États européens vont faire comme si les Français et les Hollandais n'avaient pas voté. Donc on va cracher sur le suffrage populaire. Merci, merci pour la démocratie. Et on va dire, on va faire autrement. Alors autrement, l'affaire est très très simple. On va faire signer ce qui était prévu comme texte référendaire dans cette future organisation de la sécurité collective, signer un texte qu'on appelle le traité de Lisbonne en 2007, et puis on va le transformer on va le transformer en texte qui sera approuvé non plus par un référendum populaire, mais par le Parlement, par les parlements nationaux. Et voilà comment, d'un refus populaire de 2005, on a fait un accord politique de la classe dirigeante pour rentrer encore plus profond dans cette suggestion et dans cette colonisation américaine. On en est encore là, c'est-à-dire on en est encore là, mais un peu plus que ça, puisque toutes les étapes que je n'ai pas détaillées, mais entre Maastricht 92, Amsterdam, Nice, Lisbonne, donnent lieu chaque fois que l'adversaire russe est affaibli, et chaque fois qu'on le voit affaibli, c'est l'occasion pour avancer les frontières de l'Europe. Et vous le savez, les extensions se font. Alors, en 95, il y a une première extension qui fait rentrer la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, l'Autriche, et quelques autres, oui. Et donc les républiques baltes, la Suède, la Finlande. Et puis il y aura encore une autre extension en 2004. Donc l'Europe n'arrête pas, donc l'Europe américaine, pour être très très précis, n'arrête pas de grossir pour arriver, alors en ajoutant après en 2007, la Bulgarie, la Roumanie, tout ça fait que de plus en plus, l'adversaire russe est à portée de canon de l'OTAN. Et donc des États-Unis, puisque les canons sont principalement états-uniens, les bombardiers sont états-uniens, les bombes atomiques, bien sûr, il y a une bombe atomique française entre-temps, mais elle a été pointée sur la Russie, mais l'important, c'est la force de frappe nucléaire des États-Unis qui s'approche au plus près. Hein, vous imaginez que quand on est en Finlande ou quand on est en Lettonie, on est le long de la frontière russe. Donc, avec des bombes atomiques américaines là, comme il y en a d'ailleurs en Italie, en Espagne, en Allemagne et en Belgique et aux Pays-Bas, on est à portée de tir de Moscou. Ce qui inquiète légitimement la Fédération de Russie. Donc voilà le résultat de cette Europe. Cette Europe a grandi sous la tutelle militaire des États-Unis au point d'arriver à la frontière de la Fédération de Russie. C'est une situation qui est encore aujourd'hui, puisque le débat qui a lieu, plus que ça, le conflit qui a lieu, tient à la possibilité ou non de faire que l'Ukraine soit introduite, ça faisait partie des discussions qui étaient en cours, si l'Ukraine rentrait dans l'Union européenne et dans l'OTAN, puisque ça fait un tout, hein, on ne prend pas l'un sans l'autre, on avait là un grand millier de frontières supplémentaires directement branchées sur Moscou, sur les régions les plus développées de la Fédération de Russie. Voilà donc cette évolution qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire progression du camp impérialiste américain à travers l'Europe, qui est un sujet, un vassal, à tous les points de vue, au point de vue monétaire, on emprunte, même si l'euro est indépendant du dollar, en fait, les cours de l'euro sont très très proches de ceux du dollar, etc. On a donc ce vassal qui s'approche et qui, en fait, est un outil de la politique de domination impérialiste qui n'a jamais oublié, depuis Wilson, de dire que la Russie, et l'URSS de l'époque, mais la Russie, c'est un adversaire historique, stratégique, trop grand, deux fois la surface des États-Unis, trop riche. Je rappelle qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS est la deuxième puissance industrielle mondiale. Et puis, trop armée, puisque, heureusement, les États-Unis n'ont pas réussi à empêcher l'Union soviétique d'avoir la bombe atomique, et donc il s'est installé ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur, c'est-à-dire une situation dans laquelle l'URSS, qui a toujours été à parité militaire au point de vue nucléaire avec les États-Unis, a interdit pratiquement aux États-Unis de se servir de la menace nucléaire et surtout de l'usage de l'arme nucléaire. Donc seul le Japon en a été victime, il n'a plus été possible de le faire après, nulle part ailleurs. Et c'est tant mieux, et c'est grâce à l'URSS, il ne faut jamais oublier de le dire. Voilà le tableau. Et puis, je reviens sur cette question du choix du terme colonisé, qui est ce que je viens de dire le démontre, pour me poser la question que je vous pose à vous en même temps, comment un pays qui est en même temps un pays colonial peut être en même temps, lui, colonisé. Et ça paraît un paradoxe assez curieux. Et en fait, ça s'explique très très bien. Commençons par le premier cas de ce colonisateur colonisé. Le premier cas de ce colonisateur colonisé se pose en Indochine. On ne dit pas Vietnam à l'époque, on dit l'Indochine. Alors je rappelle que l'Indochine, donc colonie française, est occupée pendant pratiquement la totalité de la guerre du Pacifique par le Japon, que le Japon est battu, et donc quitte, il est battu par les États-Unis principalement, il quitte donc l'Indochine, et que son départ est salué par l'émergence donc d'une guérilla communiste menée par le Viet Minh, donc avec Ho Chi Minh à sa tête et le général Giap à la tête de ses troupes, et que ce qui aurait pu se passer, c'était que, et ça a été proposé d'ailleurs par le Viet Minh et par Ho Chi Minh à la République française, c'était de dire, écoutez, nous sommes maîtres chez nous, le japonais envahisseur est parti, nous voulons participer à l'Union française et on veut rester amis avec vous, mais reconnaissez notre indépendance. C'était une position qui a été tenue par un résident général de la France à cette époque-là, en Indochine, qui s'appelait M. Saint-Denis, mais M. Saint-Denis, qui parlait en l'occurrence la voix de la raison, c'est-à-dire dire, eh bien, ils ont acquis leur indépendance, ils sont battus contre l'envahisseur japonais, etc. Ils ont montré une réelle capacité à organiser leur pays et à vaincre l'adversaire. Ils sont amis avec nous, on reste bons amis, mais ils sont indépendants, ils ont gagné leur indépendance. Et évidemment, la République coloniale française ne le veut pas. Elle ne le veut pas parce qu'il y a des courants donc, colonialistes qui sont en France puissants, et puis parce que les États-Unis ne le veulent pas non plus. Parce qu'il n'est pas question pour les États-Unis de dire, on est dans la guerre froide, de dire il y a un pays d'Asie qui est en train de passer du côté des soviétiques. Ça faisait un pays perdu. C'est d'autant moins acceptable qu'on va le voir tout de suite après, puisque là on est en 1945-1946, qu'en 1950, quand il s'agit de récupérer, enfin d'éviter que la Corée passe dans le camp soviétique, les États-Unis vont lancer, avec l'appui de l'ONU, vont lancer une énorme guerre où toutes les puissances, en particulier il y aura un contingent français, il y aura des contingents britanniques, etc., qui feront la guerre de Corée. Donc là, on est bien dans le cas de la division et donc de la guerre froide. La France fait son travail, elle continue la guerre froide sur le sol indochinois, et puis les États-Unis font la grosse partie du travail en Corée, après l'avoir fait, mais ils ont raté leur coup, ils ont essayé d'éviter que les communistes arrivent au pouvoir en Chine, ils n'ont pas réussi, mais ils ont essayé. Donc là, on a un vrai moment où la colonisation française sert à maintenir le monde américain du côté américain. Il faut s'en souvenir parce que ça va continuer à d'autres moments. Alors bien sûr, l'opération militaire de la France en Indochine est très lourde à porter pour une France qui a souffert de la guerre, qui est affaiblie, qui manque un peu d'argent. Et malgré les financements des États-Unis, la défaite est au bout, c'est-à-dire qu'on se souvient d'Yen Bien Phu au printemps 1954. Donc la France a perdu et donc le Viet Minh a gagné. Alors, le Viet Minh a gagné, mais évidemment, il n'a pas gagné définitivement, puisque les États-Unis, donc constatant que la France est incapable de mener les opérations coloniales à leur bout, va reprendre la place, et on connaît toute la suite, la guerre du Vietnam, etc., et la défaite finale en 1975. Ça, c'est pour le cas de l'Indochine. Mais ce qui va se passer en Afrique est très très intéressant à suivre. Alors, il y a bien sûr le cas de l'Algérie, qui va être le cas particulier, puisque là aussi, c'est le peuple algérien, à travers le FLN, qui va gagner son indépendance à la pointe du fusil, avec la lutte armée. Mais il reste toutes les autres colonies africaines, qui, elles, ne sont pas, alors qui sont surveillées. Et quand De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, il se rend compte qu'effectivement, la guerre d'Algérie ne peut pas être gagnée, même s'il ne le dit pas dès son arrivée au pouvoir. Il dit simplement « je vous ai compris » aux pieds noirs algériens, qui en comprennent ça comme ils veulent. Simplement, De Gaulle se dit « il faut surtout que ça ne fasse pas tâche la révolution armée en Algérie, que ça ne fasse pas tâche au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. » Et donc, il faut donner l'indépendance, donner une apparence d'indépendance à ces pays et les garder dans notre main. C'est ça la première décolonisation de l'Afrique. Ça consiste à sélectionner, alors ça a été expliqué très très bien dans le discours de Brazzaville de 1945, je crois, ça consiste à sélectionner dans les toutes petites couches de ces pays africains qui ont été formés en général en France, dans les universités, dans les facultés, etc., ou dans les grandes écoles, à sélectionner quelques personnages qui sont sortis du lot et qu'on va mettre à la tête d'un pays en leur disant, vous êtes les patrons, le reste de la population qui ne va pas à l'école, qui ne se passe aussi bien, vous suivra, on vous aidera, on mettra en permanence sur votre sol des forces françaises, dans l'armée française, pour que la population ne vous fasse pas des difficultés particulières. On est là, vous signez des accords de défense qui restent d'ailleurs secrets, hein, et vous restez dans notre camp, c'est-à-dire vous restez dans le camp occidental pro-américain. Alors, vous êtes indépendant, vous êtes content, alors qui devient président de la République, qui devient ministre de ceci, qui devient ministre de cela. On achète une toute petite couche, ben, en nombre de personnes, c'est très très peu de monde, une toute petite couche d'une nouvelle bourgeoisie africaine, pour lui dire, regardez, vous êtes les maîtres chez vous. En fait, ce sont des vassaux qui sont bien, bien entretenus, qui peuvent s'enrichir sur le pays, etc. L'important, c'est que tout ce petit monde reste dans le camp américain. Et ça se voit dans toute une série de circonstances particulières, puisqu'il suffit qu'il y ait un vote à l'Assemblée générale des Nations unies, ou qu'il y ait certains de ces pays qui soient membres non permanents du Conseil de sécurité, pour savoir que leur vote à l'Assemblée générale, comme leur vote au Conseil de sécurité quand ils y sont à l'occasion, est un vote où ils respectent la position française. Donc ils sont toujours dans le camp américain, comme la France. Donc ça évite des circonstances. Alors on peut imaginer, par exemple, j'ai imaginé comme ça en préparant l'émission, un beau matin, en 60 ou 61, l'Assemblée générale de l'ONU vote, alors je ne sais pas si elle le fera si tôt en 61, pour demander à ce qu'on respecte la volonté des Cubains de se soustraire à l'influence américaine. Donc la volonté de la majeure partie des pays du monde de dire « Cuba doit être libre de ses choix et nous respectons la révolution cubaine et Fidel Castro ». Alors, dans ces cas-là, c'est très très clair, les colonies françaises, qui ne sont plus des colonies qu'elles s'appellent pays indépendants, votent comme un seul homme contre, hein, donc suivent le vote de la France. Et donc on a là une espèce de stérilisation diplomatique de tous ces pays-là, à qui il est interdit de faire une autre politique que la politique internationale de la République française, elle-même colonie des États-Unis. Vous voyez, donc ça va beaucoup plus loin que simplement on a des gens qu'on a mis en place et qui se remplissent les poches et tout ça, beaucoup plus loin. Ça fait partie du découpage de la guerre froide, on est encore dans la guerre froide en 1960, et bien 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 dans la guerre froide, dans les colonies françaises sont dans le camp de la guerre froide du côté des États-Unis parce que la France l'a voulu. On y a ajouté en plus une monnaie à nous, enfin, je ne rentre pas dans ce détail, enfin, pas des détails, mais dans toutes ces considérations qui sont connues, mais à quoi servent les colonies françaises? À maintenir la domination occidentale sur toute une série de pays d'Afrique. Ça durera très très longtemps, puisqu'il faudra attendre la révolution portugaise pour qu'il y ait des colonies, donc décolonisées d'Europe, qui se posent la question de savoir si elles restent dans le camp occidental ou pas. Ça débouchera d'ailleurs sur une intervention française sur laquelle je vais m'arrêter un peu plus loin. Et voilà donc à quoi servent les colonies françaises, à quoi servent les colonies françaises dans ce monde de la guerre froide, c'est-à-dire à renforcer numériquement le camp occidental. À l'occasion, on envoie quelques troupes ici et là. Il y aura des troupes africaines dans des interventions qui ont lieu ailleurs. Mais c'est ça qui est important. Il n'y a pas indépendance. Il y a alignement d'un certain nombre de pays à qui on a donné l'indépendance, sans qu'ils aient fait aucune lutte dans ce sens-là, pour qu'ils restent dans le camp occidental. On est à peine en train de sortir de cette situation-là. C'est-à-dire que je reviens à une actualité bien, bien plus fraîche, c'est-à-dire que vous savez que les pays de l'AES, pour l'instant ils sont trois, ils vont être plus, je pense, assez vite, donc les pays qui sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sont les premiers pays ex-colonies françaises qui deviennent vraiment indépendants, c'est-à-dire qui mettent à la porte l'armée française, qui disent « les accords de défense secrets, j'en veux plus, je ne veux plus que toutes les décisions soient prises à Paris dans le sens des intérêts des Américains, je veux être libre de mes alliances dans un monde nouveau où il y a une place pour mon pays, pour ses richesses, pour la jeunesse de mon pays qui attend là de s'asseoir à la table des grands, enfin ou des grands au moins, des pays vraiment indépendants ». C'est-à-dire qu'ils refusent d'être dans ce camp américain. Qui est le camp français, c'est aussi le camp américain pour eux. Voilà ce qu'il importait, à mon sens, de dire pour montrer comment un pays donc colonisé par les États-Unis peut être en même temps un pays qui reste colonisateur et qui utilise la colonisation, sa colonisation à lui, dans le sens d'une colonisation plus globale, c'est-à-dire on a des colonies qui servent de colonies supplémentaires aux États-Unis. Alors ça permet aux États-Unis de dire, eux, c'est pas grave, la France les tient bien sous son joug, ils seront jamais contre nous, mais on n'a pas à s'en occuper, ça nous coûte rien, c'est eux qui payent, c'est tant mieux comme ça, mais on tient ferme, ils sont chez nous et ils ne sont pas chez l'adversaire soviétique, communiste, etc. Ça, c'est les liens diplomatico-économiques entre le colonisateur et les colonisés. Et puis, il faut en venir à l'organisation de la relation entre la couche dirigeante française et les couches dirigeantes aux États-Unis, ou plutôt le pouvoir états-unien. Car en fait, quand en 45-46, on a vu quels étaient les jouets, les agents des États-Unis, j'ai parlé de Jean Monnet, mais il y en a quelques autres, tout, qui étaient là, formés aux États-Unis pour défendre les intérêts des États-Unis et de leur colonisation de la France, il faut savoir que M. Jean Monnet, à un moment donné, il disparaît, et il faut qu'il y ait un renouvellement des couches complices. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours à la tête de la France des politiciens qui soient d'accord pour maintenir cette soumission à l'impérialisme des États-Unis. Et cette soumission, ça ne vient pas de rien. C'est-à-dire que ça s'organise. Ça s'organise très très sérieusement. Parce qu'il faut que ça dure. Et ça a duré, on est en train peut-être de commencer à en voir un tout petit peu le bout, mais ça a duré jusqu'à il y a très très peu de temps. Si ça ne dure pas encore, on verra. Comment organiser cette soumission ? Eh bien, il faut sélectionner les remplaçants des Jean Monnet, etc., et des autres, du même acabit. Comment faire ? Alors, il faut créer des institutions qui sont des institutions de formation, de cooptation, de sélection des élites dirigeantes pro-américaines en France. C'est vrai aussi dans les autres pays voisins, en Belgique, en Allemagne, etc. Ça prend la forme très particulière, je m'arrête un peu là-dessus, de ce qu'on appelle, de ce qu'on a appelé, ce qu'il appelle toujours, le groupe de Bilderberg. Le groupe de Bilderberg, il est constitué en 1953 aux Pays-Bas, c'est le nom d'un hôtel où a lieu la première réunion fondatrice du groupe de Bilderberg, à l'initiative du prince Bernard de Lippe, qui est le mari de la reine Juliana des Pays-Bas, lequel prince Bernard de Lippe a eu des sympathies marquées pour le Reich nazi, personne ne le conteste. Et il s'agit de dire, il faut trouver un outil qui permet à la classe dirigeante européenne, donc pro-américaine, de se mettre en symbiose, d'échanger, d'être bien connue et bien comprise, et d'avoir des liens directs avec la classe dirigeante des États-Unis. Ça ne se joue pas simplement dans des rapports diplomatiques, de rencontres entre deux ministres des Affaires étrangères ou des choses comme ça, ou dans des débats à l'ONU. Il faut que ça soit plus profond. Plus profond, alors qu'est-ce que c'est que le groupe de Bilderberg ? C'est un groupe informel qui se réunit une fois l'an, pendant 48 heures en gros, 2-3 jours même, dans un lieu connu mais où les journalistes n'ont pas accès et où la frange la plus élevée, la couche la plus étroite de la classe dirigeante va se rencontrer, la frange la plus étroite de la classe dirigeante des États-Unis va rencontrer la couche la plus élevée des classes dirigeantes européennes, en particulier et entre autres françaises. Ça veut dire qu'on réunit là une centaine de personnes, 100-200 personnes au maximum, pas trop, dans un climat très très détendu, on sait où c'est, mais c'est fermé, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de télévision et tout, et on va parler des préoccupations, et on va faire connaissance, c'est-à-dire que tel PDG d'une multinationale américaine pourra discuter librement avec le PDG d'une boîte française qui fait la même chose, boîte d'automobile, compagnie d'assurance, tout ce qu'on peut imaginer. On y pimentera ça de quelques journalistes de très haut niveau qui sont à la tête des grands médias qui influencent l'opinion. On y mettra quelques membres des services secrets, un ou deux ministres. Et c'est comme ça qu'on homogénéise les rapports entre classes dirigeantes. C'est-à-dire on se connaît et on s'échange des numéros de téléphone. Et entre les réunions, on peut très bien s'appeler, se rencontrer, préparer des affaires ensemble, se concerter. On a fait connaissance, on a créé des liens de confiance, j'allais même dire de sympathie, de sécurité. Personne ne sait pas, ne sait ce qui s'est dit. Il y a pas de cours. Alors seulement le groupe de Bilderberg affiche des thèmes qui sont à l'ordre du jour. Comment faire parce qu'il s'est passé tel ou tel événement, comment faire dans tel pays où il y a eu des troubles sociaux, etc. Mais c'est tout. Mais ça fonctionne, et ça continue de fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui, une fois l'an, alors ça tourne d'un pays européen à un autre, quelquefois aux États-Unis aussi, une fois sur deux, hein, et donc il y a des réunions de Bilderberg comme ça, où on fait le point de l'alliance américano-européenne, qui a été fondée donc à ce moment-là. Cette alliance, donc, qui est sous le cadre de l'OTAN, bien entendu, il y a toujours quelques généraux étoilés qui est là pour rappeler qu'il y a aussi une alliance militaire. Tout ça fonctionne très très bien. Mais c'est bien que ça existe, ça ne suffit pas. Il faut aller un peu plus profond. Un peu plus profond, ça va consister un peu plus tard. On est quelques années plus tard, on est en 1975. Ça va constituer à fabriquer un autre type de sélection, c'est-à-dire, puisque là on a trié, enfin Bilderberg sélectionne des gens qui sont déjà au pouvoir, soit dans les services secrets, soit dans l'armée, soit lui, à la tête de très très grandes entreprises multinationales. Bon, ils sont en plein exercice de leur pouvoir, ils sont au sommet de leur carrière assez souvent. Mais il faut aussi penser à la génération d'après, car le temps passe. Et donc, après ceux-là, qui ont, quand ils ont à Bilderberg, ils ont peut-être 50, 60 ans, il faut penser qu'un jour, ils seront à la retraite. Donc, il faut créer une autre génération de complices, de vendus, de colonisés. C'est très très simple comme raisonnement. Comment on fait ? Alors l'idée germe dans l'esprit d'un certain personnage dont vous connaissez tous le nom, qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, qui est élu président de la République en 1974, et qui donc l'est élu parce qu'il a réussi, dans la coalition qu'il a mis en place, à battre le candidat des gaullistes, Jacques Chaban-Delmas, et donc il arrive pour tourner la page du gaullisme et pour montrer, c'est une démonstration flagrante dans son cas et dans le cas de sa famille, que les collaborationnistes des années 40-45 sont revenus au pouvoir, qu'on ne leur reproche plus rien, qu'ils sont les maîtres de la situation et que les gaullistes, c'est une époque qui est terminée, qui n'a plus d'importance. Donc on a enterré les gaullistes avec Chaban-Delmas et Giscard donc est au pouvoir. Giscard est au pouvoir et ça va déboucher sur la création de la French, alors je dis le nom en anglais, mais c'est comme ça que ça s'appelle, la French American Foundation, la Fondation Franco-Américaine. Qu'est-ce que c'est que la Fondation Franco-Américaine ? Eh bien, c'est une fondation donc créée à l'initiative de Giscard d'Estaing, tardivement, puisqu'il va perdre le pouvoir aux élections de 1981. Mais comme on voit arriver la défaite de Valéry Giscard d'Estaing et l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, qui va arriver avec des ministres communistes dans son gouvernement, alors ça déplaît fortement, très très fortement à Washington. On sait que l'ambassadeur des États-Unis à Paris est venu demander des comptes à François Mitterrand, qu'est-ce que c'est que cette idée, vous prenez des communistes et tout. Alors il l'a rassuré en lui disant, non, ils n'ont que des ministères techniques, ils n'auront pas le ministère de la Défense, pas le ministère de l'Intérieur, j'en fais mon affaire. Mais toujours est-il qu'ils sont inquiets et on comprend leurs inquiétudes. Et donc il s'agit de dire, il faut maintenant faire en sorte qu'il y ait du personnel qui soit là pour éviter ce genre de problème, qu'il n'y ait pas à nouveau des communistes au gouvernement ou des gens trop à gauche qui n'aiment pas les Américains, anti-impérialistes, anticolonialistes, ça existe aussi dans l'opinion française. Et donc on met en place les Young American Leaders, les jeunes leaders américains. C'est comme ça que ça s'appelle puisqu'on parle anglais, je sais. Et dans ces Young Leaders américains, il y a une sélection annuelle donc de jeunes gens pleins d'avenir, que ce soit en politique, en économie, etc., qui, à une échéance plus ou moins rapprochée, c'est pas dans les 5 ans qui viennent, dans les 10 ans qui viennent au maximum, vont accéder à des postes de gouvernement, soit dans les entreprises, soit dans la politique. Et on les sélectionne, parce que comme ça, on est sûr qu'au moment voulu, à la suite de telle ou telle élection, il y aura sous la main les gens ad hoc qui sont pro-américains, assurés, qui ont été vaccinés comme anticommunistes et tout. Pas de souci, c'est bon. Et je vais vous citer quelques noms. Alors je pense dans l'ordre inverse de ce qui s'est passé, puisque ces Young American Leaders, il y en a tous les ans qui sont sélectionnés par un jury donc, qui est franco-américain, bien entendu. Donc c'est comme ça qu'on perpétue les générations de collaboration avec les États-Unis, de soumission à la colonisation. Le dernier en date que j'ai noté s'appelle M. Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères de M. Bayrou. Et donc on sait ses positions en particulier inacceptables sur la Syrie et sur des tas d'autres sujets, positions pro-sioniste évidente, etc. Un des récents, c'est Monsieur Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron est un Young American Leader en 2012, alors qu'on ne parle pas encore de lui. Madame Fleur Pellerin, qui sera ministre dans un des gouvernements sous Hollande, est aussi, à cette époque-là, Young American Leader. Madame Oudéa Castéra, alors qu'elle a laissé un souvenir impérissable en tant que ministre des Jeux Olympiques l'année dernière, et avec ses enfants au privé et tout ce que vous savez, bon, est aussi un Young American Leader. Madame Naja Vallaud-Besqacem, ministre de l'Éducation nationale dans un gouvernement sous François Hollande, est aussi un Young American Leader. Monsieur Mathieu Pigas, directeur général d'une banque, est aussi un Young American Leader. Madame Valérie Pécresse, vous savez, la candidate malheureuse à l'élection présidentielle de 2022, elle est aussi un Young American Leader. Monsieur Dupont-Aignan, connu aussi comme ça. Monsieur Minc, Alain Minc, dont on entend beaucoup parler, grand expert en économie, grand conseiller de ceci, de cela, etc., est aussi un Young American Leader. C'est-à-dire, quand Monsieur Minc prend la parole, il est considéré comme portant la parole de l'amitié, alors je mets l'amitié entre guillemets, de la soumission de la France à la politique impérialiste des États-Unis. Madame Christine Ockrent a été Young American Leader. Donc, alors son mari, je ne sais pas si lui a été Young American Leader, mais enfin, il est sur la même ligne politique, donc je parlais de Bernard Kouchner. Madame Ockrent, qui a cette particularité d'être, d'abord, jouer un rôle important dans l'expression sur la politique internationale de la France, qu'elle soit au gouvernement ou pas d'ailleurs, mais elle parle avec tout le poids que lui donne sa position pro-américaine. Et elle est membre, unique membre français, d'un groupe qui s'appelle l'International Crisis Group, le groupe qui fait des analyses sur la politique internationale, et où on élabore, c'est à Bruxelles le siège, où on élabore des positions pro-américaines sur tous les conflits internationaux qu'il peut y avoir dans tous les continents du monde. Monsieur Alain Juppé est aussi un Young American Leader, quand il est jeune. Puis après, il sera moins jeune, mais il sera toujours American Leader. J'en passe quelques autres. Le dernier que j'ai gardé pour la fin, mais il y en aurait beaucoup d'autres, c'est Monsieur Jean-Marie Colombani. Alors, il est moins connu que ceux que je viens de citer, probablement. Monsieur Jean-Marie Colombani a été, il n'est plus maintenant, rédacteur en chef du Monde. Donc, le Monde, enfin, le quotidien de référence, celui qui montre où est la logique de la France et les positions des classes gouvernantes, des classes dirigeantes. Monsieur Jean-Marie Colombani est donc rédacteur en chef du Monde le 11 septembre 2001. Et le lendemain du 11 septembre 2001, donc au matin ou au soir de la journée du 11, je ne sais plus si c'est le lendemain matin ou le soir même, l'éditorialiste, le gros titre en énorme caractère sur la première page du Monde, c'est « Nous sommes tous Américains ». Alors, il peut le dire, lui en tout cas on sait qu'il l'est, puisque lui il est un Young American Leader, donc il est là pour dire que tous les Français sont derrière George Bush, qu'on va tous participer à la croisade contre le terrorisme, que vivent les Américains, et vivent, tout ça c'est de la faute à Ben Laden et tout. Il joue un rôle de propagandiste de la politique gouvernementale qui va faire tous ses effets, je rappelle l'Irak, etc. Hein, tout ce qui va suivre le 11 septembre, M. Colombani et Le Monde, donc le journal de référence, le quotidien qui exprime l'opinion de la bourgeoisie majoritaire en France, est un pro-américain affirmé. Il y aura, alors, malgré toutes ces précautions, donc la sélection dans les Young American Leaders, la sélection via le Bilderberg et tout, il y a des moments où ça ne marche pas. Avec tous les soins qui sont apportés à la fabrication de la nouvelle couche dirigeante pro-américaine, de temps en temps, il y a un grain de sable dans la mécanique. Le grain de sable sur lequel je vais m'arrêter s'appelle Dominique de Villepin. Dominique de Villepin se retrouve donc Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères, je ne sais plus. Donc dans un gouvernement Chirac, on est en 2002-2003, au moment où, à la suite justement des attentats du 11 septembre, les États-Unis ont décidé de s'en prendre au régime irakien Saddam Hussein. Alors, je rappelle quand même, je souligne que l'Irak n'y est pour rien, il n'y a pas d'islamistes en Irak, que Saddam Hussein n'y est pour rien, mais il a été décidé à Washington qu'il fallait faire tomber le régime irakien, qui est trop puissant, qui est même à la limite, ce qui ne sera pas le cas après, mais un peu trop laïque et un peu trop républicain, qui a quand même renversé des monarques mis en place par les Britanniques et soutenus par les Américains, donc il sent un peu le souffle. Et donc tout d'un coup, M. de Villepin, à l'Assemblée générale de l'ONU, dit que cette guerre contre l'Irak n'a pas de sens. La réaction états-unienne est énorme, énorme. C'est inacceptable à Washington qu'un gouvernement français vienne dire à Washington, à New York même, à la tribune des Nations Unies, que la politique des États-Unis n'est pas la bonne et qu'elle fait l'erreur. Qu'effectivement, ça n'a rien à voir, ça n'a rien enlevé au terrorisme islamique d'ailleurs de faire tomber Saddam Hussein, on a la preuve encore tous les jours. Hélas. Bon. Qu'est-ce qui se passe? La réaction est une réaction furieuse, furieuse, une réaction anti-française quasiment hystérique contre M. de Villepin et contre son président, puisqu'on pensait bien que Chirac était d'accord avec ce qui avait été dit. Alors ce qui va se passer, et c'est là que ça te permet de mesurer l'influence des États-Unis sur la politique de Paris. Ce qui va se passer, c'est que les États-Unis vont tout faire pour que M. de Villepin n'arrive pas à un poste plus important, c'est-à-dire surtout pas à la présidence de la République. On est en 2003. Et il faut donc sélectionner le candidat qu'on va mettre en action pour lui prendre la place et l'opération va réussir. Le candidat sélectionné pour barrer la route à M. de Villepin à la présidence de la République s'appelle M. Nicolas Sarkozy. Alors je ne sais pas si lui, il est passé par les Young American Leaders, je ne l'ai pas retrouvé. Toujours est-il qu'il y a dans la famille de Nicolas Sarkozy quelqu'un qui a été directeur de la CIA, via sa mère. Je ne rentre pas dans les détails. Toujours est-il que c'est un élément sûr, absolument sans souci de ce point de vue-là, de sa fidélité aux objectifs américains. Et donc tout va être fait pour que M. Sarkozy batte M. de Villepin, que M. de Villepin ne se présente même pas au présidentiel, et que ce soit M. Sarkozy qui se présente et qui gagne l'élection présidentielle de 2007. Voilà la puissance du lobby. Donc on est colonisé, puisqu'au fond, à ce moment-là, ce ne sont pas les Français qui ont choisi Nicolas Sarkozy, c'est les États-Unis qui ont sélectionné M. Sarkozy contre M. de Villepin et qui ont fait en sorte qu'il soit élu. Alors, il y a effectivement des électeurs français, mais l'appareil médiatique, tout ça, tous les relais américains, tous les pro-américains, tous les Young American Leaders dont je vous ai donné les noms, ne pouvaient que soutenir la candidature de Nicolas Sarkozy. Ce qui fut fait. On montre bien par là que quand j'utilise le terme « colonisation », je lui donne tout son poids, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à Washington qu'on choisit qui va être le meilleur candidat et qu'on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit lui qui soit élu. Alors tout ce qu'on peut, ça veut dire des campagnes de presse, ça veut dire des soutiens, ça veut dire y compris probablement de l'argent, des réseaux de presse, etc., d'influence, qui jouent leur jeu pour avoir à la présidence de la République quelqu'un qui n'est pas anti-américain. Ce sera la même chose d'une certaine façon pour François Hollande, parce qu'effectivement, François Hollande, lui aussi, n'a pas été sélectionné par le camp soviétique ni par le camp russe. Il est aussi, alors je ne l'ai pas trouvé lui dans les Young American Leaders, mais enfin toute son équipe, Najat Vallaud-Belkacem et quelques autres, Marisol Touraine, tous ces gens-là sont des pro-américains manifestes. Voilà un petit bilan de cette colonisation qui est importante, et je voulais ensuite passer au niveau, alors ça c'est l'aspect pratique, qui va arriver au pouvoir, qui va gouverner. Et puis en fait il faut aussi façonner l'opinion, car vous voyez que tout ça est très cohérent et très complet. Il y a non seulement encadrer la couche dirigeante, ça c'est Bilderberg, sélectionner les dirigeants à venir, ça c'est les Young American Leaders, et puis aussi il faut que l'opinion soit dans un bain favorable aux États-Unis. Alors l'opinion, ben, ça se travaille avec des colloques, ça se travaille avec des think tanks, ça se travaille avec des livres qui sont publiés. Et tout. Et comment on la travaille dans le cas de la France, parce que la France quand même pose problème, parce qu'il y a, il y a eu ce gaullisme, il y a trop d'intellectuels, il y a, ça écrit beaucoup, ça polémique beaucoup, il y a de l'anticolonialisme, il y a eu Frantz Fanon, etc., bon, dont je n'ai pas assez parlé tout à l'heure, mais enfin, voilà, il y a des tas de gens qui sont un peu inquiétants du point de vue des États-Unis. Et donc ce qu'il faut, c'est essayer de prendre en main, d'influencer la classe intellectuelle, qui n'est pas la classe qui va au pouvoir, c'est pas la classe qui tient les journaux, mais elle a une influence dans l'opinion. Il ne faut pas que l'opinion devienne anti-américaine. Et donc il faut qu'elle manifeste, premier point important, non pas qu'elle est pro-américaine, mais qu'elle est anticommuniste et anti-marxiste. Et c'est ce qui va se passer dans la décennie 70. C'est-à-dire après le choc de mai 68, s'organise une espèce de mise en valeur des intellectuels français qui disent « Non, non, le communisme s'est dépassé, le marxisme s'est dépassé et tout, on est dans une période post-marxiste ou ceci ou cela, etc. » Et ces intellectuels-là, on va leur donner du lustre, on va les mettre en valeur, on va les faire parler. À telle enseigne, et je prends les cas les plus concrets, que toute une série des grands intellectuels français, je ne mets pas en cause leur qualité d'intellectuel, vont avoir des postes très très brillants, ils vont faire des conférences à des auditoires passionnés dans les universités américaines. Pourquoi ? Parce qu'ils tiennent un discours anti-marxiste et que c'est ça qui est important. Alors après, ils peuvent être très différents entre Deleuze, entre tous les gens qui vont y aller, entre Foucault, etc. Il y a beaucoup de différences, ils ne s'entendent pas forcément. L'important, c'est qu'ils soient anti-marxistes et anti-communistes, même s'ils n'en font pas une profession de foi. Mais tout le discours de Michel Foucault consiste à dire « ça n'a plus rien à voir, ce problème-là est réglé, l'aspiration au communisme, pour moi ça n'existe pas, c'est autre chose, moi je m'intéresse à la répression, à l'encadrement, à la prison, machin et tout, les idéologies ça ne m'intéresse pas ». Et ça intéresse parfaitement les États-Unis. Il faut que les intellectuels, parce que cette couche intellectuelle qui est gênante, qui est embêtante, qui cause beaucoup, qui a du succès, qui écrit bien, qui n'est pas sotte, je sais, ce n'est pas des imbéciles. Alors, on va trouver aussi Bernard-Henri Lévy là-dedans, dans les nouveaux philosophes, Glucksmann, Le Père, etc. Bon, il y a de tout et son contraire. Il y a du bon et du moins bon, il y a des charlatans et il y a des intellectuels de grande qualité. Mais toujours est-il que l'important, c'est qu'ils ne soient pas dans le camp pro-communiste ou pro-soviétique ou pro-progressisme. Voilà. Donc ça c'est l'important. Donc c'est l'enterrement du marxisme, on a les fossoyeurs, ils sont français, et j'insiste là-dessus parce que la France a eu un rôle tout à fait particulier dans cette évolution de l'opinion européenne, parce que par tradition, il y avait des intellectuels contestataires, mais l'influence du Parti communiste avait été limitée, elle l'est encore plus aujourd'hui, et donc il fallait montrer qu'on pouvait raisonner autrement, mais surtout ne pas mettre en cause, parce qu'aucun de ces gens-là ne va mettre en cause le système de domination des États-Unis. Et donc, en fait, tout est bien. On est progressiste, on est de gauche, etc. Et au fond, on se satisfait parfaitement de la soumission de la France aux intérêts généraux de l'impérialisme américain. Voilà une belle chose qu'il faut démontrer. Et puis, il y a, enfin, alors ça, c'est au niveau des idées, et puis, il y a la vie quotidienne. La vie quotidienne, ça consiste à dire que le mode de vie du citoyen américain, au moins tel qu'on l'imagine ou comme on le présente, en fait c'est un mode de vie très très sympathique et qu'il faut qu'on y adhère, il faut qu'on vive comme eux. Alors c'est en train de, ça a eu cours, c'est en train de s'espacer, de s'estomper, j'allais dire. Mais enfin, quand tous les citoyens des États-Unis et les citoyens français regardent les mêmes séries sur Netflix, ils sont en train de s'abreuver. Alors, s'abreuver aux sources des médias américaines. Quand ils regardent, je n'ai pas parlé des accords du cinéma, quand vous savez qu'il y a un film sur quatre qui est projeté en France qui doit être un film des Américains, puisque ça a été prévu dans les accords Bloomberg en 1945, bon, ça fait partie aussi de la mise en condition. C'est pour ça, par exemple, que vous allez tous aller voir, on va vous faire aller voir Le jour le plus long, qui relate le débarquement en Normandie, c'est destiné à vous faire croire. Et c'est de plus en plus cru, hélas, c'est pour ça qu'il faut en parler, c'est de plus en plus cru, hélas, que c'est les États-Unis qui ont libéré la France et l'Europe du Reich. C'est pas vrai. Le gros du travail était fait bien avant le 6 juin 1944 par l'armée rouge. Il avait été fait à Stalingrad, à Koursk, etc. Il a été fait à Berlin jusqu'en 1945. Et donc, c'est l'armée soviétique, avec ses 20 millions de morts, enfin 20 millions et 25 millions avec la population civile, qui a fait le gros du travail. Donc, vous, on vous vend le 6 juin 1945 et le jour le plus long. On se moque de vous, on mystifie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les États-Unis qui ont sauvé l'Europe du Reich. C'est la destruction du Reichstag à Berlin, le procès de Nuremberg, ça a été organisé et voulu par l'Union soviétique et par Staline. Rappelons-le aussi. Mais tout ça fait partie d'un bain dans lequel nous vivons. Alors, il y a le cinéma. Et puis il y a la culture de tous les jours, il y a les céréales, il y a le hamburger, il y a les poulets frits du Kentucky, etc. C'est-à-dire qu'on veut nous faire vivre sur le mode américain en faisant enrichir des boîtes américaines d'origine, hein, McDonald's, Kentucky Fried Chicken et des tas d'autres, pour nous imposer le même mode de vie, même si... c'est pas forcément les meilleurs produits pour la santé, on peut en discuter. Les produits, les poulets fabriqués à la chaîne, les hamburgers fabriqués à la chaîne avec des viandes plus ou moins douteuses, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que nous ayons, un citoyen français moyen ait l'impression de vivre comme un Américain. C'est ça le bain culturel, mais ça s'allie à la vie quotidienne. Donc il y a le cinéma, les séries, etc. Et puis les consommations. Et puis la façon dont on loue l'armée américaine et la façon dont la propagande médiatique est faite, voilà, tous les succès de l'armée américaine. Et donc on va minimiser, bien entendu, dans les médias, les horreurs commises par l'armée américaine en permanence, les bases en permanence, les agressions de tous les pays étrangers, etc. Voilà le cadre général de la colonisation. Mais c'est très très complet. Aucun aspect n'échappe, l'aspect politique, l'aspect économique, à travers la domination du dollar, l'aspect culturel, l'aspect intellectuel, tout est pris en compte pour que nous soyons à la disposition et à la merci de la politique américaine. Alors, une fois que j'ai dit ça, on se regarde aujourd'hui dans la glace et on dit, mais attendez, aujourd'hui, Monsieur Trump... il ne nous aime plus, il nous fait des misères, droits de douane, etc. Bon. Ben, il nous fait des misères, ben, c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir. Il nous fait des misères, et pourquoi on continuerait à accepter qu'il nous fasse des misères? Alors est-ce qu'il suffit de dire « Mon Dieu, soyez gentil avec nous, mais on va faire ce que vous voudrez ?» C'est ce qui est en train de se préparer, c'est-à-dire quand il nous dit « Écoutez-moi, l'Ukraine, ça ne m'intéresse pas, mais allez-y, payez et faites vous casser la figure par l'armée russe, au moins moi, je n'aurai pas de soucis de ce côté-là », Monsieur Trump est en train de se moquer de nous, est en train de nous traiter comme un larbin. Un larbin, parce que lui, il serait très content que la Russie soit affaiblie et perde la guerre. Mais comme il n'a pas envie de s'y frotter, parce qu'il pense que ce n'est pas si facile que ça, il va envoyer les imbéciles de service coloniser dans leur tête, faire le travail. Donc, alors, quand on a compris ça, on se dit, mais si on ouvrait les yeux sur le reste du monde, le reste du monde, ce n'est pas simplement les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'Ouest de l'autre, ou l'Union européenne de l'autre, c'est-à-dire, en gros, retenez bien ces chiffres, en gros, 1 milliard d'habitants de pays développés, alors je mets aussi un énorme guillemet, est-ce que la Bulgarie est un pays développé par rapport à l'Allemagne et à la France d'aujourd'hui? On en doute un peu. La Bulgarie est un pays retardataire. C'est pas pour rien que l'Union européenne n'a pas de politique fiscale, n'a pas de politique d'égalisation des salaires, parce que c'est très très commode d'aller faire... en Bulgarie ou en Roumanie, fabriquer des automobiles Renault moins chers parce que le salaire de l'ouvrier roumain ou bulgare est beaucoup plus petit que le salaire de l'ouvrier français. C'est ça la réalité de l'Union européenne. Alors on enjolive l'Europe, c'est bien, etc. Non, l'Europe, c'est un outil d'exploitation des pays les plus pauvres par les pays les plus riches, bon, au nom d'une monnaie commune et d'un intérêt commun, dans le grand bénéfice de l'alliance avec les États-Unis. Donc, alors il faut aller regarder ailleurs, c'est-à-dire que cette Europe qui est une Europe capitaliste, soumise à la volonté au pouvoir militaire des États-Unis. Alors, je dis, alors en France, on ne s'en rend pas trop compte, mais il faut bien s'en rendre compte que, à part la France et son Rafale et ses canons César, le reste des armées européennes sont des armées équipées totalement en matériel fabriqué aux États-Unis. Donc en fait, quand M. Trump nous dit allez-y, attaquez la Russie ou défendez l'Ukraine, il sait qu'il va faire enrichir ses entreprises d'armement à lui. Et nous allons, nous, envoyer des citoyens français se faire tuer pour enrichir les usines d'armement de M. Trump. Mais quelle curieuse idée. On en est donc à réfléchir au fait que ce monde de ce milliard de blancs développés, inégalement développés, et en situation économique même assez fragile pour ce qui concerne un certain nombre de pays, dont la France, avec son endettement, etc., devrait regarder le reste du monde qui est en train de se transformer. Il est en train de se transformer parce qu'il y a des grands pays comme la Chine qui, on peut considérer aujourd'hui, est en avance technologiquement et scientifiquement sur les États-Unis, à peu près sur tous les plans, à peu près sur tous les plans, en aéronautique, en spatial, en informatique, etc. On pourrait considérer l'Inde qui est un peu en retard, nettement en retard même point de vue, mais qui est quand même une grande puissance qui apporte des choses. Et puis tous les pays nouveaux qui sont là, qui prennent leur place et qui prennent leur place dans le marché mondial. Et donc, et tous les pays qui disent, mais maintenant on en a assez de travailler avec les colonialistes européens. Je parlais tout à l'heure des pays de l'AES dans le Maghreb, dans le Sahel. Et donc on a un nouveau monde sur lequel on va compter aussi l'Afrique du Sud, le Brésil, etc. Un nouveau monde où il se passe beaucoup de choses et où le milliard de blancs riches, développés, surtout très contents d'eux, qui sont manipulés par les États-Unis et colonisés par les États-Unis, est en train de s'affirmer comme voulant vivre une vie indépendante et ne voulant plus ne risquer un bombardement atomique ou l'invasion d'une troupe américaine des États-Unis, et donc qui veut vivre sa vie dans le respect les uns des autres. C'est ça ce qu'on appelle la multipolarité, le multipolarisme. La France doit s'ouvrir là-dessus, c'est-à-dire qu'elle doit dire « j'arrête, je me décolonise dans ma tête, je vais regarder chez les autres et je vais essayer de travailler parce que j'ai toute ma place, j'ai encore un potentiel, je n'ai pas que des Young American Leaders sous la main, j'ai aussi des scientifiques de bon niveau, j'ai aussi des ingénieurs de bon niveau, j'ai aussi des travailleurs de bon niveau ici et là, là où il reste des industries, et c'est mon savoir, c'est mes capacités que je vais mettre en place et je vais trouver des gens avec qui je pourrai travailler sans être dominé. Car c'est ça le nouveau monde multipolaire, c'est ça. Je ne suis pas dominé. C'est pas parce que je signe un contrat avec une société chinoise que la Chine fait la loi dans mon pays. C'est très très différent. Bon. Donc voilà ce que je voulais dire pour terminer. Ouvrons les yeux, le monde a changé, nous devons réfléchir autrement, le regarder autrement. Nous avons, donc nous sommes au terme de 80 ans de colonisation, voire quasiment un siècle de colonisation par les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas grand-chose à apporter au monde aujourd'hui, à part des bombes atomiques, mais qui n'oseront même plus lancer. Donc c'est un pays dans un état très très inquiétant. On se tue à la sortie des écoles, la mortalité infantile est une mortalité digne du tiers-monde, et tout à l'avenant, on s'y drogue plus que dans aucun pays au monde, etc. C'est un pays très abîmé, il n'est plus exemplaire. S'ils veulent se rétablir, à eux de le faire, mais ce n'est pas à nous de les suivre dans leur chute. Donc pour éviter la chute états-unienne, restons, ouvrons les yeux sur le monde extérieur, affirmons-nous avec un projet qui ne soit pas le projet des milliardaires, ce n'est pas le projet de Bernard Arnault, ce n'est pas le projet de François Pinault, ce n'est pas le projet de tous ces gens-là, c'est le projet de la société française, c'est-à-dire que la masse de la société française, qui souffre de la situation économique précaire, doit dire, maintenant, on va s'occuper des intérêts de la majorité de la population, et pas de savoir si on est d'accord ou pas d'accord avec M. Trump. M. Trump vit sa vie, comme il veut, mais nous, on ne doit pas attendre de faire le travail qu'il nous dit de faire. Nous devons faire ce qui profite à la majorité de la population française et pas aux milliardaires français qui sont toujours à être la main tendue ou à attendre un exemple des États-Unis. Il y en a assez de passer des heures et des heures à la télévision, à la radio, à écouter le résultat des primaires aux élections présidentielles américaines. Nous n'y changeons rien. Ce pays est malade, ce pays est en mauvaise santé. Eh bien, on n'a pas à lier notre destin au leur. On a à trouver le nôtre dans un monde nouveau qui est en train de se construire. Voilà un message d'espoir, dans des conditions certes difficiles, mais l'espoir est là avec les yeux grands ouverts. Merci de m'avoir écouté.
Cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant.